Le journal Estelle Caméraire.
Bonjour à toutes et à tous. La messe de clôture du jubilé de la jeunesse vient tout juste de commencer, présidée par Léon XIV, face à plus de 500 000 jeunes venus du monde entier. Nous serons à Rome au début de ce journal. Situation paradoxale pour les festivals français, malgré une fréquentation en hausse, la majorité d'entre eux finissent en déficit. Une évolution inquiétante dans le contexte actuel. Direction Séoul en fin de journal pour rencontrer deux réfugiés de Corée du Nord qui ont réalisé un rêve, devenir une star de la K-pop. Léon XIV s'apprête à commencer la messe de clôture du jubilé. Il vient d'arriver. L'année sainte, organisée tous les 25 ans par l'Église catholique, le jubilé. Plus de 500 000 jeunes catholiques, dont 21 000 français, sont à Rome pour le jubilé des jeunes ouvert depuis le 29 juillet. Cette nuit avait lieu la veillée des prières, point d'orgue de cet événement. Plus d'un million de pèlerins étaient réunis sous le signe de l'espérance et de la paix. À Rome, Olivier Tosseri.
Les médias italiens ont baptisé le jubilé des jeunes de Woodstock catholique et c'est en effet un accueil digne d'une rockstar que les pèlerins ont réservé à Léon XIV. Le pape est arrivé en hélicoptère blanc sur la vaste esplanade d'une centaine d'hectares parsemée d'écrans géants. À bord de sa papa mobile, tout sourire, Léon XIV a fendu une foule en liesse qui l'a acclamé tout le long de son parcours. Un bain de foule qui s'est poursuivi lorsqu'il a porté la croix du jubilé le long des quelques mètres le séparant d'un hôtel monumental en bois. Entouré de milliers de prêtres, religieux et évêques, il a demandé aux jeunes de chercher la justice pour bâtir un monde meilleur et plus humain. Luc, pèlerin français de 21 ans, est convaincu de la nécessité de témoigner de sa foi.
Nous, jeunes catholiques, on a la chance d'être à Rome et de voir aussi tous ces autres jeunes, pas que de la France, mais du monde entier. Les jeunes qui verront ces images d'1 million, non, entre 500 000 et 1 million, ouais. C'est un beau message de l'Église catholique. C'est pas que les vieux et que les prêtres peu ringards, c'est aussi de la joie, de la bonne humeur, de la rencontre et plein d'amour et de la paix.
Les jeunes pèlerins ont passé la nuit à veiller et bivouaquer sur ce vaste terrain parsemé de matelas, de couvertures et de sacs de couchage. Un moment de prière pour préparer la grande messe ce matin, présidée par Léon XIV.
Ce jubilé est aussi l'occasion pour le pape d'adresser de nombreux messages aux catholiques du monde. Et alors que l'Église française fait face à de nombreux scandales d'abus sexuels dans l'Église, les Français en attendent beaucoup, 100 jours après l'élection de Léon XIV. Un récent sondage Odoxa pour Le Figaro estime que près de 9 Français sur 10 ont une opinion favorable du nouveau pape, Jeanne Serrin.
Léon XIV bénéficie d'abord d'un effet surprise. Son nom, personne ne l'attendait vraiment, souligne François Mabille, directeur de l'Observatoire géopolitique du religieux à l'Institut de relations internationales et stratégiques.
Il y a un narratif qui s'est imposé au moment de l'élection du pape, d'un pape bénéficiant d'une image positive parce qu'il avait été au Pérou, mais également parce qu'il était aux États-Unis, donc il y a un effet de surprise. Et puis, un homme qui a été présenté comme un homme de dialogue et à l'écoute.
Un narratif qui a aussi rapidement placé Léon XIV dans le sillage du pape François.
Le fait que Léon XIV, à plusieurs reprises, ait repris des expressions du pape et manifesté une sensibilité aux questions sociales a sans doute correspondu à une attente générale que les Français peuvent avoir à l'égard du nouveau pape ou d'un pape en règle générale.
Difficile pour autant en 3 mois d'esquisser la personnalité de ce nouveau pape, même si parmi ses premiers gestes, certains ont pu aussi rassurer une frange plus conservatrice, estime Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens.
On ne va pas juger un pape uniquement au fait de savoir s'il a mis la mosette rouge ou pas. Maintenant, c'est vrai que ça rassure les partis les plus traditionnels des catholiques qui se disent « Ah ben enfin, il ressemble à un pape !» Parce que franchement, le pape François, il portait sa soutane comme si c'était un bleu de travail.
Un pape plus consensuel que son prédécesseur et plus discret, ça aussi, cela semble plaire aux Français, puisque selon ce sondage Odoxa, 82% des interrogés apprécient ce trait de sa personnalité.
Paris a prévu de larguer 40 tonnes de produits alimentaires à Gaza ce week-end. Des méthodes jugées coûteuses et dangereuses par les ONG. Les palettes créent des mouvements de foule. En janvier 2024, 5 personnes étaient mortes, écrasées par les cargaisons. Hier, les frappes israéliennes ont fait 32 morts dans l'enclave, dont un employé du Croissant Rouge palestinien et 14 personnes qui attendaient de l'aide, selon la défense civile à Gaza. Des images ignobles dénoncées par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barreau, après la publication par le Hamas et un autre groupe islamiste palestinien de vidéos d'otages israéliens à Gaza. La France redemande leur libération sans condition. Et dans les colonnes de la Tribune du dimanche, les écologistes appellent Emmanuel Macron à déployer la marine nationale pour envoyer de l'aide humanitaire dans l'enclave et lever le blocus humanitaire imposé par Israël depuis 5 mois. Ils estiment que la France doit être le moteur d'une coalition internationale. Dans les colonnes du Parisien, cette fois, les mesures proposées par Catherine Vautrin pour lutter contre la fraude sociale, débiter le compte bancaire d'un fraudeur ou géolocaliser les transports sanitaires. La ministre du Travail dévoile un projet de loi voulu par François Bayrou pour rétablir les comptes publics. Le texte sera examiné à l'automne par le Parlement. On en compte plus de 7000 en France. Les festivals sont dans une situation paradoxale. Malgré la vitalité du spectacle vivant et une fréquentation en hausse, une grande partie d'entre eux sont en déficit. Selon une enquête du ministère de la Culture, ils étaient plus de 4 sur 10 dans le rouge en 2024. Pire encore pour les festivals de musiques actuelles et de variétés, dont les deux tiers affichent un résultat négatif, selon une étude que vient également de publier le CNM, le Centre National de la Musique. Et cela concerne notamment les festivals qui font pourtant le plein de spectateurs. 68% des festivals ont un taux de remplissage supérieur à 90%. Une évolution très inquiétante dans le contexte actuel des coupes budgétaires. Selon le chercheur au CNRS, Emmanuel Négrier, spécialiste des festivals.
C'est dû à un système de dépenses dont la croissance est assez forte, notamment sur les dépenses techniques, sur les dépenses artistiques, sur les dépenses de sécurité et d'assurance. Et puis, de l'autre côté, on a un système de recettes qui, certes, augmente un petit peu du côté de la billetterie, mais qui est à tonne sur la plupart des autres postes, voire en baisse. Aujourd'hui, une collectivité territoriale qui maintient intégralement ses subventions aux festivals fait figure de héros. Beaucoup de festivals tiennent malgré tout à rester, au prix quelquefois d'une déprogrammation de quelques spectacles, ce qui affecte cette fois le secteur culturel dans son ensemble. Et en même temps, toujours une dynamique de création de nouveaux festivals. Donc on est vraiment dans une situation très paradoxale que, à terme, alors est-ce en 2026, après les élections municipales, est-ce que ce sera en 2027, après les élections présidentielles, eh bien, si la part publique de l'écosystème n'est pas au rendez-vous, alors on peut effectivement imaginer ce qui serait une catastrophe à la fois économique et en même temps une catastrophe sociale et culturelle. Ce sont, dans le domaine culturel, des économies qui sont très caractéristiques d'un territoire, qui en valorisent les atouts touristiques, hôteliers, etc., et dont les pouvoirs publics devraient se soucier.
Emmanuel Négrier répondait aux questions de Benoît Grossin. Le marché des concerts, lui, se porte plutôt bien. Le groupe coréen Blackpink a fait vibrer le Stade de France hier soir et sera de retour ce soir. Et en Corée du Sud, un nouveau groupe de K-pop, Universe, fait ses débuts mais n'est pas comme les autres. 2 des 5 membres ne sont pas sud-coréens mais nord-coréens. À 25 ans, ils sont tous les deux réfugiés du régime, arrivés en Corée du Sud à 13 et 19 ans. Ils ont réalisé le rêve de nombreux de leurs compatriotes, être une star de la K-pop. Reportage à Séoul de Célio Fioretti.
Rien ne les y prédestinait et pourtant ils l'ont fait. Malgré le fait que la Corée du Nord soit un pays extrêmement fermé où tout ce qui vient du Sud est interdit, certains, comme Kim Sok, sont tout de même parvenus à découvrir la K-pop depuis le régime nord-coréen, malgré les risques de sanctions.
J'avais déjà entendu de la musique sud-coréenne quand je vivais en Corée du Nord, des chansons romantiques au travers de clés USB entrées en contrebande. Quand je suis arrivé au Sud, j'ai continué à en écouter car c'était ce que je préférais quand j'étais petit et aujourd'hui c'est devenu mon métier.
Une passion qui est restée, comme pour son collègue Yu Yok, qui a découvert le hip-hop en Corée du Sud et n'a pas abandonné son rêve de pouvoir monter sur scène.
Après être arrivé au Sud et fait mes études, je travaillais à l'usine, mais je n'avais pas lâché ma passion du chant. J'ai participé à un télécrochet et c'est là que la manageuse du groupe a dû me repérer. Elle est venue me voir pour me proposer de la rejoindre. Au début, je pensais qu'elle voulait m'arnaquer, mais elle m'a offert des cours de chant tous les week-ends et petit à petit, j'ai compris que je pouvais vraiment devenir chanteur.
Un parcours exceptionnel dans une industrie musicale coréenne très exigeante. Aujourd'hui, le groupe compte déjà de nombreux fans, aussi bien en Corée du Sud qu'à l'étranger, et peut-être bientôt en Corée du Nord.
Un mot sur le temps pour terminer. Les températures remontent doucement. 19 à Rennes, 20 à Auxerre, 25 à Montpellier et à Nice dans la matinée. C'est la fin de ce journal réalisé par Alix Forgeot et Jean-Guilain Mège à la technique. Prochain rendez-vous d'information à 12h30 avec Marie-Aimée Coupleutre.